Bonjour Valérie Ayer.
Bonjour.
Bienvenue sur RFI. Paris accueille aujourd'hui le sommet de la coalition des volontaires pour l'Ukraine. 31 pays représentés. Qu'est-ce que c'est? C'est le rendez-vous des recalés, le rendez-vous de ceux qui ne sont pas invités par les États-Unis aux discussions de paix sur l'Ukraine?
C'est le rendez-vous de ceux qui veulent véritablement une paix juste et durable pour l'Ukraine. C'est un sommet qui sera important. Il s'inscrit dans une dynamique qui a été initiée par le président de la République il y a un mois et demi maintenant. C'est le deuxième sommet à Paris, le troisième au total. Et il réunira, et d'ailleurs il y a de plus en plus de volontaires,
de participants.
Et l'idée, elle est double. C'est un, comment on continue d'aider l'Ukraine. Le président de la République a annoncé hier une aide supplémentaire de 2 milliards d'euros d'équipement militaire. Et de comment on travaille ensemble pour offrir des garanties de sécurité une fois qu'un accord de cessez-le-feu ou de paix aura été signé. Donc c'est comment à 31, en l'occurrence aujourd'hui, on est proactif et on est force de proposition pour avoir une pleine place à la table des négociations.
Alors prenons les choses dans l'ordre. Vous parlez de l'un des principaux objectifs, c'est renforcer l'aide à l'Ukraine, annonce du président de la République hier. Chaque pays va devoir dire aujourd'hui ce qu'il est prêt à faire. Est-ce que les Européens doivent faire plus?
Bien sûr, on doit faire plus, on doit faire plus vite.
On doit faire plus que les 135 milliards d'euros d'aide financière, humanitaire, militaire que tous les pays européens ont donné à l'Ukraine depuis 3 ans. On doit faire plus que ça. On peut le faire.
Alors merci de le rappeler parce que ça permet aussi de rappeler et de contredire ce qu'avait dit Donald Trump qui avait prétendu que les États-Unis avaient donné beaucoup plus que les Européens.
De fait,
c'est faux.
Non.
Bon. De fait, c'est
mais
faux.
Toujours est-il, maintenant, est-ce qu'on peut faire plus
en fait,
que ça?
Mais alors, l'enjeu, c'est que cette guerre s'arrête le plus tôt possible et que l'Ukraine, que cette guerre s'arrête aux conditions de l'Ukraine. Et donc, comment on fait? On crée les conditions pour que l'Ukraine soit dans la meilleure situation possible, militairement, pour pouvoir négocier demain. Donc oui, il faut accélérer, aider l'Ukraine pour que ces négociations se passent dans la meilleure position pour les Ukrainiens. Et ensuite, ce ne sera pas la fin de l'histoire non plus. Comment on crée ces garanties de sécurité? L'aide militaire à l'Ukraine, elle est importante aujourd'hui, pour aujourd'hui, sur le front, mais aussi pour demain, parce qu'il faudra que l'armée ukrainienne, demain, une fois que l'accord de paix sera signé, soit crédible pour être dissuasive pour la Russie.
Vous qui vivez aujourd'hui dans ce milieu européen, au Parlement européen, vous sentez les 27 prêts à financer plus cet effort, plus cette aide? Où va-t-on trouver l'argent, Valérie?
Alors, la sensibilité et l'engagement sont là. Moi, je suis tous les jours au Parlement européen. Le Parlement européen reste en soutien massif de l'Ukraine en appelant à renforcer l'aide militaire et financière à l'Ukraine. Les 27 sont presque unanimes. Vous avez aujourd'hui la Hongrie de Viktor Orban qui s'oppose à toute aide à l'Ukraine et qui est très en soutien et de Vladimir Poutine et de Donald Trump. Vous avez le Slovaque, Robert Fico, qui est un peu entre les deux. Mais vous avez 25 qui sont extrêmement fermes en soutien à l'Ukraine. Mais en fait, la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité. Les Ukrainiens se battent pour leur intégrité et pour recouvrir leur souveraineté territoriale. Mais vraiment, il y a un enjeu de sécurité pour l'ensemble du continent. Et donc, accélérer l'aide à l'Ukraine, la renforcer,
donc vous
pensez
c'est
contribuer
que c'est
à notre meilleure sécurité.
Et c'est possible. Et avec quel levier financier? Est-ce qu'il faut utiliser les avoirs russes gelés?
Alors, on a différents leviers financiers. On peut utiliser les avoirs russes gelés. Au Parlement européen, on a une position qui est en soutien. On utilise aujourd'hui les intérêts.
Ce que ne veut ni la France, ni l'Allemagne.
Alors, moi, ce que je comprends, c'est que c'est encore en discussion. En fait, il y a un certain nombre de pays qui sont frileux et qui s'interrogent pour ne pas créer de précédent et pour rester vraiment dans le respect du droit international en la matière. Nous, ce qu'on propose au Parlement européen, c'est de dire on utilise les avoirs russes gelés en garantie de prêt pour les Ukrainiens, ce qui permettrait de les utiliser sans les confisquer directement. C'est une solution qu'on a proposée et qui est d'ailleurs, je crois, à l'étude au sein du gouvernement.
Une pirouette juridique,
Pour rester sur la ligne de crête et à la fois envoyer le signal politique et très concret avec une aide financière et respecter le droit.
Oui, c'est 200 milliards, les
avoirs
russes gelés, ça n'est pas rien.
Donc
il est question aussi de ces garanties de sécurité. Est-ce que concrètement, il faudra déployer des troupes de maintien de la paix sur le terrain en Ukraine une fois qu'un cessez-le-feu aura été conclu?
C'est ce qui est discuté. Le président de la République l'a rappelé et l'a expliqué. L'intérêt, il est vraiment de dissuader Vladimir Poutine d'attaquer une deuxième fois. Parce que malheureusement,
on comprend bien le principe, Valérie, mais vous savez bien que les Russes sont contre cette force de maintien de la paix. Ils le disent, ils le répètent, qu'il n'est pas question de troupes européennes ou autres en Ukraine.
Mais cette force de maintien de la paix, elle n'aura qu'une seule vocation, maintenir la paix et s'assurer que Vladimir Poutine ne sera pas tenté d'attaquer de nouveau. En 2014, il y a eu des accords de Minsk. Il les a violés en attaquant de manière encore plus frontale et brutale l'Ukraine. Donc les forces de maintien de la paix, elles permettent de stationner. Concrètement, ce sera quoi ? Ce sera des troupes, des professionnels, oui, qui seront stationnés non pas sur l'ancienne ligne de front, ce seront les Ukrainiens qui seront sur l'ancienne ligne de front, mais qui seront stationnés dans le pays, dans le cadre d'une opération de maintien de la paix ou de réassurance, selon la manière dont on l'appelle.
Et vous pensez que ça, les Russes peuvent l'accepter ?
Mais ça fait partie des conditions nécessaires, des garanties nécessaires. Si on refait l'accord de paix en mode accord de Minsk de 2014, on a un risque très clair, appuyé sur des faits, que Poutine recommence. Donc il faut qu'on crée les conditions de dissuader Vladimir Poutine d'attaquer de nouveau.
Bon, sur la table, il y a aujourd'hui un accord de cessez-le-feu en mer Noire. La Russie a indiqué hier que l'accord négocié avec les Américains ne s'appliquerait qu'après la levée des sanctions avec la Russie. Est-ce que l'Europe doit lever ses sanctions pour permettre à ce cessez-le-feu de vivre ?
Ça dit quoi ? Ça dit que, une fois encore, que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Volodymyr Zelensky, hier, l'a dit. Il a fait des pas, des gestes. Il veut véritablement la paix. Face à lui, il a accepté un cessez-le-feu inconditionnel, Volodymyr Zelensky. Face à lui, on a Vladimir Poutine qui met des conditions qui sont inacceptables.
Donc il n'en est pas question.
Il n'est absolument pas question. D'ailleurs, le président de la République l'a rappelé hier. Il faut un accord de paix, un cessez-le-feu inconditionnel avec des garanties de sécurité. Mais ça dit quoi ? Pardon, je reviens sur cette demande. Ça dit que l'Europe, elle a eu raison de poser des sanctions.
16 trains de sanctions depuis 2022.
Exactement. 16 trains de sanctions qui ont eu un effet quand même sur l'économie russe qui a été atteinte. Et puis on arrive aujourd'hui, si demain Vladimir Poutine est sincère dans sa volonté de paix, eh bien ce sera un levier de négociation. Aujourd'hui, il est hors de question de l'activer parce qu'on voit très clairement que Vladimir Poutine, pardonnez-moi, n'est en aucun
Donc
cas à la recherche d'une solution.
Donc c'est une carte qu'ont les Européens, c'est ce que
Exactement.
Vous nous dites.
Exactement, mais qu'il n'est pas question d'activer à ce stade. On veut un cessez-le-feu inconditionnel.
Valérie, il ne nous reste qu'une minute. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui à Paris, mais sans les États-Unis. Les Américains discutent de la paix sans les Européens. Les Européens discutent de l'après sans les Américains. Est-ce que tout ça est bien cohérent ?
Alors, il y a quand même des discussions qui ont lieu. Le président de la République a des échanges avec Donald Trump, le Premier ministre britannique également. Évidemment, moi, je préférerais un format où tout le monde est autour de la table des négociations.
Est-ce qu'on n'est pas en train d'acter, le divorce avec les États-Unis, là ?
Alors, il y a une réalité. Moi, je considère que les États-Unis ne sont aujourd'hui plus nos alliés. Par contre, ils ne sont pas pour autant nos adversaires. On a besoin d'eux pour régler le conflit en Ukraine et ramener la paix. Et donc, il faut continuer le dialogue. C'est ce que fait le président de la République. Et c'est le sens aussi de cette réunion d'aujourd'hui, d'être force de proposition auprès des Ukrainiens et auprès des Américains.
Ce ne sont pas nos ennemis, mais quand même, quand Trump dit l'Union européenne a été conçue pour emmerder les États-Unis, quand son vice-président, on voit ça dans les boucles signal qui sont révélées, qui qualifient les Européens de méprisables profiteurs, on n'est plus très loin des ennemis, là, quand même.
Je ne parle pas de rupture parce qu'il faut conserver des canaux, mais il y a une réalité, c'est qu'on ne peut plus compter sur eux et que même il va falloir compter contre eux, qu'ils soient contre nous.
Merci Valérie d'être venue ce matin sur RFI.